Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'agité du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Ce matin, je me suis réveillée un peu grognon. J'étais là sans être là, avec mon café à la main. Vous vous reconnaissez, ça vous arrive aussi, ne me faites pas croire le contraire. On a tous nos journées qui commencent comme ça, on se lève pas du bon pied et aucun pas de danse n'inverse la tendance du réveil. Mais alors l'émission d'aujourd'hui m'a remise en joie puisqu'on allait forcément passer un bon moment puisqu'on va parler festival et pas n'importe lequel puisque j'ai à mes côtés Colline Maugère qui va nous parler de la prochaine édition du festival Les Mouillotins à Saint-Poix. Bonjour Colline.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'égayer ma journée. Et ce n'est pas tout puisque dans la suite de l'émission on écoutera notre reportage Pensée Locale de la semaine qui nous emmène à Angers dans le quartier Saint-Exupéry parce que depuis le mois de janvier 2024, Angers débloque de nouveaux moyens pour permettre de réduire les inégalités grâce au dispositif quartier de la politique de ville. L'émission se termine toujours avec une chronique, vous le savez, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, on accueille une nouvelle chronique dans l'AJT du local avec le collectif TACT qui rejoint notre belle équipe de chroniqueurs et qui va désormais, une fois par mois, nous parler de l'agriculture paysanne. Et pour n'oublier personne, puisque Lucie, tu es aussi avec moi en studio, tu nous fais l'actu en bref dans quelques minutes. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, amis auditeurs. Et donc, je vous le disais, aujourd'hui, on va parler festival et plus particulièrement du festival Les Mouillotins avec Colline Maugère de l'association AMAC. Tu es donc responsable de la communication pour le festival Les Mouillotins qui a lieu le 24 et le 25 mai 2024 à Saint-Poix pour sa 22e édition.
C'est ça.
Et donc 22 éditions, c'est pas rien, c'est un festival qui est bien ancré en Mayenne. Et nous, on aime toujours bien revenir sur les premiers pas des festivals d'ici. Comment ça a commencé, Les Mouillotins ?
Les Mouillotins, c'était vraiment un groupe de potes, un groupe d'amis. Et vraiment, à l'origine, en fait, ils se baladaient à vélo dans les villages pour aller chercher les œufs, en fait, chez les habitants. Donc, ça part vraiment de ça. Et ensuite, il y a le festival plutôt musique qui s'est développé autour de ces idées vraiment conviviales.
Et alors, je me suis posé la question, est-ce que le festival Les Mouillotins s'est créé une identité particulière ? Est-ce qu'il s'adresse peut-être plus à un public qu'à un autre ?
Alors les Mouillotins, ils se sont toujours adressés plutôt aux familles et aux jeunes. Cette année, on reste dans le même esprit, avec un univers rock, techno, vraiment, et de la pop évidemment. Donc voilà, c'est tout public.
Et est-ce qu'il y a eu une évolution de ce festival au fil du temps ? Parce que donc on parle de 22 éditions, ça fait quand même un moment qu'il existe sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé du coup dans l'association et pour le festival ?
Alors oui, tout récemment, donc l'année dernière, on a revu tout le bureau qui est maintenant principalement que de jeunes. Les bénévoles, évidemment, sont toujours les mêmes, mais il y a une nouvelle dynamique qui a été lancée l'année dernière avec le but de relancer ce festival qui est ancré en nous.
Donc un public familial porté par des jeunes, donc c'est un festival qu'on connaît bien sur le territoire et puis qui a une très chouette programmation. Vous avez déjà annoncé donc 13 artistes pour cette prochaine édition, on retrouve différents styles musicaux, plutôt French indie, pop rock, rock, pop électro. Comment a été construite cette programmation pour cette nouvelle édition ?
Alors cette programmation, donc, elle existe grâce à notre programmateur Antonin. Il a amené beaucoup d'artistes émergents en ce moment en France. Et il y a aussi évidemment des talents confirmés qui sont sur scène. Mais le but, c'était vraiment de se tourner un peu sur ce côté rock et de ramener un peu de fraîcheur en Mayenne.
Et alors, on peut peut-être donner quelques noms pour la nouvelle programmation, il y a Johnny Jane, par exemple, qu'on va écouter tout à l'heure, mais il y en a d'autres aussi.
C'est ça, on peut retrouver aussi Gwendoline, par exemple, ou Hyper Jacuzzi, Yolande Bashing, Madame et plein d'autres.
Voilà, à découvrir sur le site internet, sur les réseaux sociaux également. Je me posais une question, Colline, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de festivals en Mayenne, implantés en zone plutôt rurale. Qu'est-ce que ça apporte pour le territoire ? Quel est l'impact du festival sur la commune de Saint-Poix, par exemple ?
Bah, surtout à Saint-Poix, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'événements en principe sur ce village. Et puis même aux alentours, il y a beaucoup de gros festivals qui nous entourent, notamment à Château, notamment à Rennes, etc. Et nous, ça nous permet d'avoir des plus petits festivals avec bien sûr des tarifs réduits qui vraiment attirent tout le monde et qui est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment cool de pouvoir juste profiter de ce week-end-là tranquillement.
Et alors l'accueil des habitants de la commune, justement, ça doit être aussi un plaisir pour eux justement d'accueillir des scènes comme ça qui s'installent et puis des artistes qui viennent et puis donc une dynamique qui n'existe pas forcément tout au long de l'année à Saint-Pois.
Ah bah c'est ça, ça fait vraiment revivre le village et tout le monde est hyper content de venir souvent sur le festival. On voit beaucoup d'habitants qui viennent avec le grand plaisir et le sourire aux lèvres, quoi.
Et donc soutenir la scène émergente, c'est aussi une des valeurs du festival, c'est important pour les Mouillotins.
C'est hyper important et encore, encore aujourd'hui, parce que faire découvrir de nouveaux artistes et même par exemple tout bêtement Johnny Jane qui est en train d'exploser en ce moment, et nous ça nous fait hyper plaisir d'accueillir des artistes qui sont hyper cool dans la vie et qui sont hyper doués sur la scène, et donc on a envie de le faire découvrir à tout le monde autour de nous, quoi.
Et le live, c'est l'occasion justement de découvrir un artiste aussi sous une autre facette. Parce qu'il y a toujours la version de l'album, mais alors quand les premiers rayons du soleil arrivent et que voilà, on peut découvrir vraiment l'artiste sur scène, c'est aussi souvent une autre proposition.
Ah, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une dynamique quand ils sont sur scène. Ils nous donnent vraiment tout ce qu'ils ont, leur âme, leur corps. Et c'est vraiment ce partage entre artistes et public, c'est magnifique.
Et on remarque qu'il y a des artistes qui sont tout particulièrement sensibles au festival. Ça, c'est la période où il y en a certains, justement, on les redécouvre vraiment autrement. Il y a un vrai plaisir pour l'artiste tout comme pour le public. C'est autre chose encore de découvrir un artiste en extérieur comme ça par rapport à une salle, ce qui a aussi beaucoup de qualité, mais c'est encore autre chose. Là, on est vraiment dans l'esprit convivial, c'est partage ça. Tous ensemble.
Vraiment festival, quoi.
C'est ça. Donc, un festival, ça représente une grande organisation logistique sur le temps du festival, mais aussi, il y a aussi un travail énorme en amont. Et donc, ce travail est porté exclusivement par des bénévoles. Et ça, c'est important de le souligner.
C'est ça. Ça prend beaucoup de temps. On est une équipe de bénévoles constants, d'une dizaine de bénévoles constants pour toutes les catégories, que ce soit de la trésorerie, à la com, à la sécurité, etc. Et sinon, après, bien sûr, sur le jour J, il y a tous nos bénévoles qui viennent nous voir, à peu près 200 bénévoles qui viennent le jour J, donc c'est quand même cool. Après, aujourd'hui, là, on est vraiment dans une dynamique de vouloir recruter encore plus, parce que comme c'est du bénévolat, c'est du temps perso, et donc ça prend énormément de temps, et donc plus on est de bénévoles constants, mieux c'est pour l'organisation.
Parce qu'un festival, à une édition comme celle-ci, par exemple, elle a commencé dans sa préparation à quel moment dans l'année ?
Est-ce qu'on s'est vraiment arrêté ? C'est ça la vraie question.
C'est ça en fait. Dès qu'une édition se termine, on démarre directement la suivante.
On fait quand même une petite pause pour prendre conscience de ce qui s'est passé pendant le temps d'un week-end. Mais c'est vrai que dès le mois de juillet-août, quoi, c'est reparti, quoi. Surtout pour la programmation, à commencer à chercher. La com, ça s'arrête jamais. Il y a tout le rangement à faire, etc. Donc ça prend énormément de temps.
Oui, parce qu'il y a tout ce qui est logistique, technique, on disait le jour J, mais il y a aussi en amont toute l'organisation. À un moment, il y a différentes étapes, j'imagine, dans la préparation d'un festival, la construction de la programmation, par exemple, et aussi l'organisation d'une équipe, parce que 200 bénévoles, c'est pas rien. Et vous recherchez d'ailleurs actuellement des bénévoles pour la prochaine édition.
C'est ça, on recherche donc vraiment actuellement. N'hésitez pas à nous contacter via les réseaux ou même sur l'adresse mail des bénévoles. Donc bénévoles.amac@gmail.com, je peux passer le...
Bien sûr.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est hyper important pour le festival et pour la dynamique en fait de Saint-Pois, mais aussi de la Mayenne en fait. Parce que sans bénévoles, on n'est rien et on ne peut rien faire. Donc c'est hyper important d'avoir du monde. Et en plus... En réalité, c'est vraiment une dynamique hyper cool. On s'amuse, on rigole, on crée vraiment une deuxième famille. Et donc, c'est vraiment quelque chose à vivre.
En plus, il y a différents postes. Donc, en fait, je pense que chacun peut y trouver son compte. Au fur et à mesure des éditions, je pense qu'on peut changer éventuellement de poste également. Parce qu'il y a, par exemple, la billetterie, mais il y a différentes...
Il y a la billetterie, ça peut être très bien la restauration, le bar. Ça peut être très bien être sur scène pour aider les personnes à ranger tout ce qui concerne les artistes. Ça peut être l'accueil des artistes. Enfin, c'est vraiment hyper divers. Donc, il y a bien sûr la sécurité, voilà, tout ça, c'est hyper important. Voilà.
Donc, ça permet de vivre le festival aussi un peu dans les coulisses, un peu autrement, et de voir un peu aussi l'envers du décor, et puis surtout de donner de la force et de l'énergie au festival et à toute l'équipe, parce que c'est un gros travail, on le répète encore. Je me suis aussi posé la question, donc il y a eu cette période du Covid, on en a effectivement tous entendu parler. Ça a été un défi peut-être justement pour que ces bénévoles reviennent aussi à un moment, relancer la machine, c'est quelque chose d'important à souligner.
Bah, c'est vrai que le Covid a fait perdre une dynamique voilà, c'est hyper dommage. Les gens ont trouvé d'autres choses à faire et ne veulent peut-être moins s'investir, en tout cas, dans des grosses organisations comme ça. Donc, c'est vraiment un challenge d'aller chercher le monde, de les motiver. C'est vraiment la motivation, en fait, qui prime sur ça, parce que des personnes peuvent voir ça comme un poids à porter, alors qu'en fait, c'est juste de l'éclate à faire entre deux, trois personnes selon la commission. Donc c'est vrai que le Covid, ça a été compliqué, mais là, ça y est, ça repart.
Puis il faut le dire, on a cette richesse des festivals sur le territoire, on n'arrête pas de le répéter, mais il faut en fait toujours les soutenir aussi, parce que c'est dire, voilà, là, actuellement, ils sont là, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent en difficulté.
Mais c'est ça. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul et que c'est grâce à des personnes que c'est là. Donc demain, s'il n'y a plus rien en Mayenne, ça serait dommage.
Et en plus, on développe des compétences.
Ah oui. Ouais, oui, surtout, bah, là, comme je disais, on est une équipe de jeunes. On apprend énormément de choses en peu de temps au final, et ça nous sert aussi dans notre vie pro, dans notre vie perso. Donc c'est hyper cool.
J'imagine que ça peut même créer des vocations, hein, de découvrir un peu l'événementiel comme ça, comment ça se passe.
Bah oui, tout bêtement, il y a des personnes qui voulaient me rejoindre cette année en com, alors que c'est pas du tout leur métier de base, quoi. Et aujourd'hui, ils font des trucs super, quoi. Non, vraiment.
Et donc, la billetterie est ouverte, parce qu'il faut vous soutenir aussi en se rendant au festival. Nous serons là, la billetterie est ouverte et il y a même une offre promotionnelle actuellement. Alors dis-nous tout, Colline.
Donc bah, l'offre, c'est tout simplement une place achetée, deux places offertes. Donc la place de base est à 12 € le vendredi ou le samedi. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir trois places à moitié prix, quoi, à moins. Okay. Et donc c'est top.
Donc c'est énorme. Donc profitez bien de cette offre qui est disponible donc sur le site internet. On peut réserver directement sur le site internet. Vous êtes également présent donc sur les réseaux sociaux, de quoi suivre les actualités, les focus sur les artistes. On l'a dit, il y a 13 artistes d'annoncés pour cette nouvelle édition qui aura donc lieu le 24 et le 25 mai cette année.
C'est ça.
Merci Colline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il fait partie de la programmation de cette prochaine édition. On écoute tout de suite Johnny Jane, Normal.
commencer, chers auditeurs, la préfecture de la Mayenne a envoyé un communiqué dans lequel elle invite à rester vigilant quant aux arnaques sur les ventes en ligne. Et oui, il existe un procédé, le dropshipping, ou livraison directe. Et en gros, c'est quand vous avez acheté un produit en ligne et que vous ne le recevez jamais. C'est un peu plus élaboré que ça dans les faits, mais c'est l'idée. La préfecture donne quelques règles de prudence pour éviter ce genre de cas lors d'un achat en ligne, à savoir s'assurer d'avoir accès à toute l'information sur les sites de commerce en ligne, les mentions légales avec identité, coordonnées postales, téléphoniques, électroniques, etc., le délai de livraison, les conditions générales de vente avec la politique de retour des objets notamment. Et l'autre point, c'est de se renseigner sur le site internet consulté pour savoir si d'autres consommateurs le connaissent. Tout ça avant d'acheter, bien sûr. Si jamais vous pensez en être victime, vous pouvez vous rendre sur le site signal.conso.gouv.fr. Allez, désormais, on va à Saint-Ouen-des-Toits. Quelques instants, des travaux d'assainissement d'eau potable sont en cours, engagés par le service des eaux de Laval Agglo, dans la rue des Roses et des Géraniums. La réouverture à la circulation aura lieu après les essais et la vérification que tout va bien, avec analyse, rinçage, etc. Donc environ dans la première quinzaine d'avril. A noter que la semaine du 11 au 18 mars, la route d'Andouillé sera barrée pour raccordement sur le réseau. Une déviation sera mise en place par le Bourgneuf et la Baconnière. Retour à Laval maintenant, vous avez peut-être eu l'occasion de vous y rendre. Le CREF, le centre de séjour associatif, va changer de nom pour s'appeler Centre International de Séjour, ou CIS Laval. Et c'est pas juste pour faire joli qu'ils ont pris cette décision, c'est aussi pour refléter leur envie, je cite, de s'inscrire dans un tourisme social, solidaire, sportif et éthique. Et pour terminer, vous me connaissez, j'aime toujours autant vous proposer des petits rendez-vous à venir. Et tout d'abord, à Port-Briet, il y aura pour la toute première fois dans le département un Sailid. À mes souhaits, désolée pour la prononciation, il s'agit d'un bal écossais et une maître de danse y sera pour expliquer les pas et guider lors des quadrilles ou autres tourniquets. Et pour sauter tel des cabris des Highlands, ce sera donc le 16 mars prochain, 22 rue de Verdun à la salle de la Madeleine à Port-Briet, avec un prix d'entrée à 10 euros. Et avant ça, c'est à la SCOMAM que ça se passe. Vous pourrez assister à Check Off, une sortie de résidence d'artistes, ce vendredi 8 mars à 19h. Il s'agit d'une création inspirée du texte Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Et c'est la compagnie Ad Hoc, portée par Dorian Moretus et Patrick Dordoigne, habitués du Festival des Trois Éléphants, qui propose ce moment artistique. Je ne vous en dis pas plus, ça se passera à la SCOMAM à Laval demain, vendredi 8 mars à 19h. Et on y retourne pour la météo, chers auditeurs. Laurent, il est de super bonne humeur parce qu'il fait beau. C'est reparti pour les tours à vélo, les longues randos. Bon, pas pour longtemps, malheureusement, vous allez le voir. Aujourd'hui, tout va bien, c'est du soleil avec un ciel un peu voilé jusqu'à ce soir et même cette nuit. Et côté température, c'est digne d'un printemps avec des 12-13 degrés jusqu'à 14 degrés à Château-Gontier et plutôt aux alentours de 10 degrés vers le Haut. Un peu de vent, ceci dit, avec des rafales jusqu'à 50 km/h, mais rien de trop méchant. Et ce soir, on passe doucement à du 8-9 degrés avant de glisser vers les 5-6 degrés de la nuit. Demain, c'est là que ça commence à se gâter, mais Laurent peut se rassurer, on y va doucement quand même, on ne réattaquera pas avec des grosses pluies tout de suite. Non, demain, ce sera simplement très nuageux sur tout le département, la majorité de la journée, du matin jusqu'à la fin d'après-midi, et on retrouvera nos bonnes vieilles pluies éparses le soir, sauf dans le sud de la Mayenne, aux alentours de Quelaine-Saint-Gaud, Mélay-du-Maine et Château-Gontier, qui profiteront d'un peu d'ensoleillement avant la nuit. Sur les températures, la journée va commencer avec des 4-5 degrés, on va tranquillement monter jusqu'à 11-12 degrés l'après-midi, avant de redescendre à 8-9 degrés le soir et environ 6 degrés la nuit. Bon, Laurent, il se dit que finalement, une rando nuageuse, ça reste quand même une rando sympa.
Chaque jeudi, on retrouve notre reportage Pensée Locale et cette semaine, on y découvre le quartier de la politique. On y découvre le quartier de la politique de ville, qui est un dispositif rassemblant des zones urbaines choisies par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire des aménagements et rénovations. Depuis le mois de janvier 2024, Angers compte un nouveau quartier politique de ville, le quartier Saint-Exupéry, situé en plein centre-ville. De nouveaux moyens vont être débloqués à l'échelle de la ville pour permettre de réduire réduire les inégalités. Alice Galmiche de Radio Campus Angers est allée à la rencontre des habitants du quartier et des différents acteurs du territoire. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Depuis le mois de janvier 2024, la ville d'Angers compte un nouveau quartier politique de la ville, dit QPV, le quartier Saint-Exupéry. Un temps de rencontre a été organisé dans l'école de la Revelière, l'école du quartier. Une occasion de comprendre ce que ce changement peut apporter aux habitants.
On considère que quand on entre dans un quartier politique de la ville, c'est quand même effectivement assez abstrait. Il faut que les habitants comprennent ce que c'est et comprennent que c'est finalement une force de se dire « bah tiens, enfin les institutions, les associations, nous habitants, on prend en compte nos difficultés et on va avancer ensemble pour que ça aille plus vite ».
La particularité du quartier Saint-Exupéry, c'est qu'il est à quelques minutes de l'hypercentre-ville. J'ai demandé à Magali Antoine, qui travaille à la ville d'Angers et à Angers-Loire-Métropole, pourquoi le quartier est dit enclavé alors qu'il appartient au quartier du centre-ville.
C'est un quartier qui est en centre-ville et pourtant il est centré sur lui-même. C'était comme ça qu'étaient pensés les immeubles avant, pour plus de sécurité pour les enfants. Mais il était fermé, comme ça on pouvait surveiller les enfants. Mais au final, on s'est rendu compte avec la pratique que ça enclavait davantage le quartier qu'autre chose et que ça l'ouvrait pas vers l'extérieur et vers l'accès au droit.
L'école est transformée pour l'occasion en salle de réception parce qu'un des problèmes dans le quartier, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'accueil pour tous. Le quartier manque d'infrastructures. Johanna, habitante du quartier, espère que ça va changer.
Franchement, la priorité, je pense que c'est des infrastructures pour les plus jeunes et les moins jeunes, hein, ceux qui ont entre 15 et 16 ans, qui aujourd'hui sont tout seuls, ne sont pas gérés et ont, je pense, plus envie parce qu'ils ne sont pas habitués à être gérés par des adultes, qui ont besoin de tables de ping-pong, paniers de basket, buts de foot, des structures de sport, des choses comme ça, auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Ce qui serait vraiment le top, c'est que ça soit construit par eux, pour que justement ils n'aient pas cette envie de mettre le bazar, de casser, parce que quand on leur donne des choses, ils trouvent que c'est jamais assez, parce qu'ils font partie de la génération qui n'ont pas eu grand-chose, et parce que Saint-Ex a été oublié pendant longtemps. Si c'est construit par eux, je pense que plus longtemps ça tiendra, parce qu'ils seront fiers de ce qu'ils auront fait, et c'est ça qu'ils attendent.
Pensée locale, un enjeu de société.
Aujourd'hui, tout le monde est réuni pour trouver des solutions. Comment penser ou repenser le quartier pour permettre à tous de se sentir bien?
Alors concrètement, là on fait un premier temps de rencontre pendant une fête de quartier pour juste expliquer un petit peu la démarche et là où on en est, commencer à prendre un petit peu la parole des habitants via des questionnaires. Après, il y aura des ateliers plus poussés avec les habitants où ils pourront co-construire des solutions ou proposer des solutions. Tout le monde est réuni en fait pour essayer de monter un projet. Donc ça, c'est concrètement. Après, il y a plusieurs soutiens possibles. Il y a un soutien institutionnel où il y a des fonds qui sont débloqués à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la CAF, à l'échelle du département, de l'État et tout ça, parce que c'est un quartier prioritaire. Donc il va y avoir des sous qui vont être donnés en plus pour les habitants du quartier politique de la ville. Donc là, nous, on va faire pour que les habitants puissent bénéficier de ces politiques publiques. Et puis, il y a un autre pan qui est assez important et qui est le soutien au projet. C'est-à-dire qu'une association d'habitants, une association lambda, peut déposer un projet pour son quartier. Par exemple, la maison de quartier a déposé déjà un projet pour Saint-Exupéry autour d'animation l'été pour créer plus de liens sociaux l'été sur Saint-Exupéry.
Plusieurs élus sont venus à la rencontre, dont notamment Francis Guitaud.
La ville va regarder de plus près la manière dont les choses se passent ici et va faire en sorte de pouvoir mobiliser, optimiser un petit peu tous les services qu'elle doit rendre aux différents quartiers en se disant que dans ce quartier-là, il y a un besoin particulier qui est un peu plus fort que dans certains autres et donc il faut pouvoir être présent et un peu plus présent peut-être qu'elle l'était auparavant.
La présence de la mairie ne sera cependant pas physique. Aucune ouverture d'antenne locale ou de service public n'est prévue. Seules des associations itinérantes seront invitées à intervenir. Pour le reste des services, à voir donc si le pari de l'ouverture avec le reste du quartier du centre-ville fonctionnera. En tout cas, si dans un premier temps le changement de statut peut paraître stigmatisant, il semblerait que ça permette de nouvelles perspectives pour Saint-Exupéry.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission De la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage d'Alice pour Radio Campus Angers.
Et alors, je vous le disais en début d'émission, dans quelques instants, on accueille une nouvelle chronique dans l'agité du local et j'en suis très heureuse. Mais je vous laisse un peu de suspense si vous nous rejoignez, que maintenant, il faudra attendre encore 2 minutes pour la découvrir parce que Lucie, j'écouterai bien un morceau de ta playlist maintenant.
Et oui, bah moi, le beau soleil qu'on a aujourd'hui, ça me met en joie, Margot. Je me sens super en forme, un peu comme si j'étais au sommet du monde. Bon, pour les anglophones parmi vous, vous allez l'entendre, la bonne humeur est plus dans l'air et le titre que dans le détail des paroles du morceau. Mais bref, moi j'ai quand même envie de vous faire écouter Top of the World de Tiwago avec Colton et Robert Cashman.
I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, do not save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, oh my baby. I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, do not save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world. I hear them tell me not to jump, yo. You got so much to live for. First they say live a little, but now they say to live more. But which one is it? I see the city from the 64th floor. Y'all still think I'm playing games, don't y'all? Well, I'm still feeling like a waste of space. Overcapacity in this planet, I don't change the date in my car no more. Time is in a standstill, climbing up the mountain, but the mountain is a landfill. Don't like the way my hands feel. Clap if you're happy. Life is a bitch, sick of smacking up her ass cheeks. They're looking raw from how red they are. I shook paws with the rest of y'all. It wasn't nice to meet ya. Don't introduce me to your family, I don't like them either. These apples don't fall far from the trees, If your friends dropped, would you jump too? Well, let's see, call, we'll play, follow the leader. Hey, I've been feeling like I am on top of the world. I am on top of the world, do not save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, oh my baby. I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, now save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world. I hear them telling me not to jump.
Like don't jump, call, Lord knows I'm about to. I don't give a fuck though, let it go and come down. Dude, the mouth's moving, sounds proof life. But I don't really see it. I've been looking off the edge of this earth, losing my belief in all this motherfucking propaganda. Hard to hand it to ya. I was glued to television, now I'm not a fan of you. Cause you're the reason we've been dying quicker. It's quite the picture. Now you got me fucking around, trying to pound the finest liquor. Hi, Mr. President, fuck you and what you stand for. Life's living in debt, but I guess that's what you plan for. A plan more about you than us. It's the story of this life. It's like the truth is fuck going nuts from it. Tough love, it's all gonna be aight. Smoke a pound of purple kush, get up at work, then hit the mic every night, every morning. Fuck it, I ain't jumping, I'm feeling important.
Lately, I've been feeling like I am on top of the world. I am on top of the world, do not save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world. I am on top of the world, oh my baby. I've been feeling like I am on top of the world, I am on top of the world, do not save me. Cause I've been feeling like I am on top of the world.
I hear them tell me not to jump.
Je suis très heureuse d'accueillir dans cette émission une nouvelle chronique aujourd'hui portée par le collectif TACT. C'est la première chronique de l'agriculture paysanne et pour cette première chronique, on écoute Vincent. Bonjour Vincent, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Bonjour, aujourd'hui on vient vous parler de l'ADARM.
L'ADARM c'est quoi ?
C'est une association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Et le M c'est pour Mayenne, qu'on aime tous évidemment. Les ADAR sont regroupées en réseau sur toute la France. Elles sont engagées pour soutenir l'agriculture paysanne.
Et alors l'agriculture paysanne, qu'est-ce que c'est ?
L'agriculture paysanne permet à un maximum de paysannes et de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier, en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, accessible à toutes et tous, et ce, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle participe avec les citoyennes et les citoyens à rendre le milieu rural vivant et à préserver un cadre de vie apprécié par tous. L'agriculture paysanne a été définie par une charte en 1998. Ce n'est pas un label, mais l'objectif est de permettre aux paysans et paysannes de se poser des questions sur leurs pratiques et d'essayer de tendre un maximum vers ces principes. D'ailleurs, l'ADARM propose aux agriculteurs un diagnostic de l'agriculture paysanne afin de savoir comment leur exploitation se situe par rapport à ces principes.
Et alors, quels sont ces principes ?
Il y en a 6. Ils ont tous la même importance. Certains sont interdépendants, mais parfois ils peuvent entrer en contradiction. L'objectif est simplement de s'améliorer. Le premier principe est l'autonomie. L'autonomie, c'est l'idée de rester maître de ses décisions. C'est limiter sa dépendance énergétique, par exemple. Financièrement, c'est essayer de maîtriser son endettement. Le deuxième principe est la transmissibilité. La transmissibilité passe par exemple par le fait de limiter l'agrandissement de son exploitation afin qu'un repreneur ait les capacités d'investir. C'est aussi sécuriser le foncier afin de transmettre des exploitations viables. Le troisième principe, c'est le développement local. Cela signifie qu'un paysan doit s'investir dans la vie locale afin de faire vivre son territoire. Le quatrième principe est la répartition. C'est l'idée d'avoir une meilleure valorisation des produits, que la répartition entre ce qui revient aux producteurs et les autres acteurs de la chaîne soit juste. Le but est de dégager un revenu suffisant, tout en laissant la possibilité à d'autres paysans et paysannes de se dégager aussi un revenu suffisant. Vivre sur une ferme à taille humaine pour que d'autres vivent à côté sur une autre ferme à taille humaine. Le cinquième principe est le travail avec la nature. Il s'agit de maintenir la fertilité des sols, de préserver les ressources, telles que l'eau par exemple, d'améliorer la biodiversité. Et le sixième principe, c'est la qualité, c'est-à-dire garantir la transparence de nos fonctionnements, de nos produits. C'est aussi respecter les cycles naturels et faire des produits bons et sains. Voilà les principes de l'agriculture paysanne. L'idée est de tendre vers eux au maximum. L'ADARM, afin de développer l'agriculture paysanne en Mayenne, a mis en place plusieurs actions. D'abord, elle accompagne tous les porteurs de projets sans discrimination. Elle les accompagne avec des rendez-vous, avec des cafés-installations sur diverses thématiques, avec des formations sur plusieurs sujets, dont la plus importante est la formation de l'idée au projet, pour vraiment accompagner les porteurs de projets des premières idées d'installation agricole jusqu'à l'émergence d'un projet plus défini. Elle accompagne aussi les cédants qui souhaitent transmettre leur ferme. Pareil, avec des rendez-vous, des cafés transmission, des formations sur qu'est-ce que transmettre, comment on sécurise une transmission. N'hésitez pas à venir vous renseigner sur nos différents outils. Pour porter tous ces projets et pousser l'agriculture paysanne en Mayenne, l'ADARM a besoin de soutien et de bras. Venez vous mobiliser avec nous pour porter ces valeurs en Mayenne. D'ailleurs, on vous attend nombreux à notre AG le 27 mars. Une autre manière de nous soutenir est d'acheter un carton de notre bière de soutien, fait tous les ans par un brasseur mayennais. Elle est disponible à nos locaux à Bonchamp. Bonne journée à vous et vive l'agriculture paysanne!
Et alors, toutes les informations sont sur le site agriculturepaysanne.org/ADARM. Merci Vincent.
Merci à toi Margot.
Merci à l'Asinerie du Bois Gamma qui nous a accueillis pour construire ensemble cette chronique dans l'agité du local. Merci à Colline d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le Festival des Mouillotins. Merci à Vincent pour sa chronique du jour. Et bien sûr, merci à toi, Lucie. D'ailleurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ça passe tellement vite.
Et le reste de la journée passera très vite aussi parce que la programmation d'aujourd'hui reste un régal.
Mais dis-moi en plus.
Prépare-toi, Margot. La soirée commence à 19h avec le Grand V.
Bon, pour ceux qui n'ont jamais écouté cette émission, ne la manquez pas. C'est le rendez-vous de Delphine et Valentin et croyez-moi, ils n'ont jamais autant préparé une émission. Aujourd'hui, le Grand V vous propose des titres chantés par des fils de, des filles de ou de la famille de. Enfin bref, vous m'avez compris, surprise garantie. Et la soirée continue vraiment en beauté avec Transistor.
Et Transistor prend l'antenne à 21h. Aujourd'hui, on rencontre Wilfried Jude, directeur artistique de la programmation d'Atmosphère 53.
Vous le connaissez peut-être parce que c'est vraiment quelqu'un qui œuvre avec foi et énergie à la promotion du cinéma en Mayenne. Il n'a d'ailleurs jamais cessé de transmettre son amour du cinéma et aujourd'hui, vous pourrez le découvrir un peu plus ou pour la première fois sur nos ondes.
Lucie, je nous sens terriblement enthousiasmée aujourd'hui.
Il en faut des journées comme ça, Margot, pourvu que ce soit contagieux pour nos auditeurs.
Nous, on se quitte ici, on se retrouve demain pour une agitée du local un peu spéciale en direct et en public pour la journée des droits des femmes. Venez nous voir et nous écouter au Palindrome de Laval. Nous serons installés dans le hall avec Mayanne Roquette, juriste OCI DFF et Sophie Pasquet, déléguée départementale à l'égalité hommes-femmes. D'ici là, je n'en fais pas des tonnes aujourd'hui. Je vous demande seulement de faire le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.